L'Église protestante unie de Montpellier et Agglo édite un journal, Vibration, et le numéro 33 porte sur la notion de l'espérance. En collaboration avec Luc-Olivier Bosset, FM+ relaie sur son antenne l'intervention de deux auteurs. La première est celle de la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, qui en assure la rédaction en chef. La deuxième interview est celle du professeur et théologien Michel Bertrand sur l'espérance qui se nourrit d'une promesse. Emmanuel Sebolt, vous êtes la présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France et vous écrivez dans le numéro 33 du journal de l'Église protestante unie de Montpellier, Vibration. Et ce thème de la rentrée choisi par Vibration, c'est l'espérance. On va en parler ensemble. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous pour ces premières journées du mois de septembre, ce premier jour du mois de septembre. Et vous avez choisi on vous a sollicité probablement sur cette espérance après un été compliqué, après un printemps compliqué. C'est un thème qui vous est cher, Emmanuel ?
Oui, c'est un thème d'abord essentiel. Pour les chrétiens, pour les croyants, c'est un thème essentiel que ce thème de l'espérance. C'est un thème qui est pour moi essentiel depuis que je suis petite. Qu'est-ce qui peut ouvrir l'avenir quand tout semble fermé ? Et en discutant avec les rédacteurs du journal de l'Église protestante unie de Montpellier, il nous a semblé que ce sujet, que ce thème était vraiment essentiel aujourd'hui de compliqué de cette épidémie où on a fermé beaucoup de choses. Là, on rouvre, on essaye de vivre avec. Mais voilà, quelles ouvertures possibles pour la vie ?
Oui, le sens de la vie, la question de la justice, le courage de vivre. Tout cela, vous faites un lien avec tous ces angles, ces aspects, ces couleurs finalement, avec l'espérance. Est-ce que c'est pas aussi quand même un sujet, un bateau du christianisme de dire voilà, on va espérer autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui ?
Alors oui, ça peut être vu comme ça effectivement, mais en fait c'est vraiment le cœur. Alors, il ne faudrait pas penser, on a dit souvent, l'espérance, c'est l'opium du peuple. Hein.
Oui.
C'était le mot. Mais en fait, c'est pas facile d'espérer. C'est pas juste une solution de facilité. Je dirais qu'au contraire, c'est la possibilité d'ouvrir du possible là où à vue humaine, il n'y en a pas. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans une situation où on est beaucoup à se préserver, protéger, prémunir, s'écarter les uns des autres, mettre en place tout un tas de barrières, pour essayer de pas contaminer l'autre si on est soi-même malade, c'est évident. Mais la plupart d'entre nous ne sont pas malades ou l'ont été et ne le sont plus. Donc, qu'est-ce qui peut aujourd'hui rouvrir la possibilité de vivre ensemble, si ce n'est pas l'espérance ?
Alors, dans ce journal de Vibration, il y a une place qui est faite, bien sûr, au texte biblique, dans cette réflexion sur l'espérance. Quelle place est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on prend sa source directement dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pour nourrir cette réflexion ? Ou est-ce que pour vous, c'est des considérations beaucoup plus contemporaines ?
Alors, il y a les deux. Parce qu'en fait, la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, annonce toujours, annonce de manière répétée un avenir, annonce la promesse d'un monde nouveau. Et on peut comprendre, et on a pu comprendre au cours des siècles, ce monde nouveau comme un monde après. Mais en fait, ce monde nouveau, il commence déjà aujourd'hui. Et c'est toute cette tension qu'il faut essayer de vivre dans sa propre vie, quand soi-même on est accablé par les difficultés, par l'épreuve, par la maladie, par la mort, de se dire Dieu place une espérance, la possibilité d'un monde nouveau, mais comment je fais pour le recevoir dans ma vie d'aujourd'hui, pour le vivre dans ma vie? Et ça, les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament donnent, voilà, alimentent cette espérance. Mais aussi, évidemment, le monde d'aujourd'hui, les questions, et notamment sur les questions qui sont liées à notre manière de vivre dans le monde, à l'écologie, etc., nous incitent à prendre à bras le corps les difficultés actuelles et les problématiques qui se posent pour voir comment créer aujourd'hui, réellement, concrètement, une nouvelle manière de vivre en société pour que la vie soit possible, tout simplement.
Alors, en société et aussi en Église, vous reprenez l'expression que vous dites apprécier, aimer, qui vous parle, quand la nouvelle présidente du conseil presbytéral de l'Église de Montpellier parle d'une Église poreuse. Alors, une Église poreuse, est-ce que c'est une Église finalement qui se renouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît, qui n'était pas aussi présent avant cette catastrophe de ce confinement? Voilà, on a l'impression que dans nos paroisses, ça a été un bouleversement, ce moment-là, et qu'on a rebattu les cartes.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, alors moi j'aime beaucoup l'expression d'église poreuse. Je trouve ça vraiment une très très bonne trouvaille. Mais effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? En fait, comme église, on a, comment dire, on aime se retrouver ensemble. On aime, on est porté par la vie communautaire. C'est très important de pouvoir se retrouver le dimanche ou dans d'autres réunions en semaine, être les uns avec les autres, c'est ce qui nous porte. Or, pendant plus de 2 mois, on a été privés de cette rencontre physique, les uns avec les autres. Et je crois que beaucoup, comme moi, ont ressenti ce manque cruel des autres. Je crois qu'on l'a perçu de manière encore plus flagrante. Et on a, l'imagination, c'est né comme ça dans beaucoup de paroisses. On a trouvé de nouveaux modes de fonctionnement. On a, découvert ce que nous permettent aujourd'hui les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, les visioconférences, etc. On a expérimenté alors qu'on avait pratiquement jamais fait ça avant. Et du coup, ces possibilités de nouveaux moyens de communication ont permis aussi à d'autres de rentrer de manière peut-être plus discrète que quand on rentre dans un temple ou dans une salle de culte et puis que peut-être les gens vous regardent en disant « Tiens, je ne l'ai jamais vu, celui-là ». Donc, ces moyens de communication ont permis que d'autres viennent regarder le culte, que d'autres viennent participer à telle ou telle réunion. Et je crois que c'était une vraie opportunité que l'Église soit encore plus poreuse grâce à ces nouveaux médias.
Des églises poreuses, plein de petites églises poreuses locales pour faire une grande église protestante unie poreuse.
Oui, absolument.
Ce serait à envisager.
Ah oui, moi je suis... les sociologues parlent aussi de communautés qui sont des ponts. C'est un petit peu cette idée-là. Mais dans pour eux, il y a encore beaucoup plus de trous que... Et donc ça peut
ponts,
rentrer,
ouais.
Sortir. Voilà,
ouais.
Ça circule. Ouais. En fait, l'esprit n'est pas à son aise quand tout est fermé. Il fait éclater les murs. Et donc, un lieu d'entrée, de sortie, de passage, c'est pas juste la porte qui doit être ouverte, mais aussi toutes les fenêtres. L'Église doit être à l'écoute de ceux qui n'y sont pas, L'Église doit être à l'écoute des besoins et des pulsations du monde pour témoigner de l'amour de Dieu, de l'espérance. Voilà. Et donc, pour ça, il faut que tout soit ouvert.
Merci, en tout cas, merci Emmanuel Sebold pour cette ouverture dont vous venez de témoigner, cette ouverture, cet état d'esprit. Je vous en remercie et puis je vous dis à bientôt.
Merci Guylaine, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au cours d'une vie qui fut mouvementée, dans un siècle où l'horreur battit ses records, parmi les êtres qu'on a pu rencontrer, sur le seuil d'un grand rêve ou dans des corridors, au cours d'une vie de verte et de pas mûre, à se dire quelquefois que le monde est foutu, que l'homme est fou, qu'il va droit dans le mur. Il arrive que cette vie si cruelle et tordue s'ouvre sur un jardin d'odeurs, comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs et les rues. Au cours d'une vie qui fut mouvementée, il arrive qu'un jardin, qu'un simple visage humain, une main ouvre un nouveau chemin. Traversée de voyage au bout de la nuit, à se dire suffit, mais tout de même hanté par la mort qui fait le mort et par le temps qui fuit. S'ouvre tout un jardin d'odeurs, comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs et les rues. Au cours d'une vie qui fut mouvementée, il suffit d'une voix, un certain regard pour qu'on voit un espoir toujours recommencer, que l'on croit en l'amour planté sans cesse et replanté dans le cours d'une vie mouvementée. Tout se pardonne, tout se gomme et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme. Il arrive qu'un jardin ou qu'un simple visage humain, une main ouvre un nouveau chemin. Tout se gomme, se pardonne et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme.
Dans le dernier numéro de Vibration, le journal de l'Église protestante de Montpellier, il était question de la notion d'espérance. Et l'un des contributeurs de ce numéro, c'est Michel Bertrand, qui est pasteur de l'Église protestante unie, mais qui a eu aussi d'autres fonctions dans l'Église protestante unie. Bonjour Michel Bertrand.
Bonjour.
Alors, quand on est pasteur à vie, mais vous n'avez pas été que pasteur, Michel Bertrand.
Pour tout vous dire, j'ai le sentiment que, à travers les différents postes que j'ai pu occuper, je me suis toujours senti pleinement pasteur. Je pense que c'est le titre qui convient à ce qui est ma vocation et mon ministère. Et je pense que lorsqu'on occupe des responsabilités de gouvernement, comme on dit dans l'Église, ou lorsque l'on est enseignant à la faculté, je pense qu'on continue à être pasteur.
Alors,
D'une certaine manière, responsable d'une parole et en même temps d'une écoute.
Alors justement, cette parole que vous donnez dans ce numéro de Vibration, c'est sur cette notion d'espérance. Alors, est-ce qu'on a encore à dire des choses nouvelles dans ce mot qui peut être, aux yeux de certains, peut-être tarte à la crème?
Oui, c'est vrai que le mot espérance est un mot qui est parfois même un peu disqualifié, parce qu'il a pu recouvrir des chimères, des paroles incantatoires qui encourageaient simplement à tenir bon et puis attendre qu'un jour tout irait mieux, et aussi bien sur le plan des religions que sur le plan des idéologies du XXe siècle, eh bien ça a souvent été perçu comme des attentes illusoires. En même temps, je pense qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de réhabiter, peut-être même de réhabiliter ce terme d'espérance, parce que l'espérance, c'est ce qui nous tourne vers demain. Or, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a beaucoup de mal à se projeter vers demain. Lorsqu'on en parle, c'est souvent avec les accents apocalyptiques, des catastrophes à venir, des angoisses, des craintes pour demain. Et du coup, on ne vit plus que dans le présent, ce qui est déjà très bien. Il faut habiter pleinement le moment présent, mais comme si on n'osait pas regarder ailleurs. On n'osait pas regarder vers une réalité qui pourrait être autre que celle qui nous est proposée et parfois imposée aujourd'hui.
Alors, est-ce que le christianisme donne des échos, donne une dimension différente à cette question de l'espérance? Parce que finalement, on pourrait être dans une autre religion, une autre philosophie. Est-ce qu'on a le même ton, la même source que d'autres? Pensées.
Alors, je crois que la première chose qu'il faut dire, ce qui est important, c'est effectivement de faire place à l'espérance, c'est-à-dire faire place à une réalité autre. Et de ce point de vue-là, je pense que les chrétiens peuvent cheminer avec les hommes et les femmes qui disent l'ultime de notre vie, la réalité de notre vie ne se limite pas à la réalité visible, observable, quantifiable, mais qui font place dans leur vie, dans leur existence, à de l'autre. Qui font place à l'autre. Au prochain, mais qui espèrent de l'autrement, qui disent que les réalités peuvent être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, ça veut dire que l'espérance, d'une certaine manière, est toujours de l'ordre d'une confiance, c'est-à-dire d'une foi. L'espérance, et c'est bien pour ça qu'elle est parfois suspectée, elle ne peut pas donner de preuves. Elle, d'une certaine manière, elle ne vit que de la confiance en une parole autre, en une promesse. Et c'est là qu'effectivement, il peut y avoir des différences entre ce qu'on pourrait appeler une espérance profane ou laïque, et puis l'espérance chrétienne, même si ces réalités ne sont pas incompatibles non plus. Le chrétien, il reste un citoyen du monde. Mais pour le chrétien, l'espérance est de l'ordre d'une foi, d'une confiance en la promesse d'un autre, c'est-à-dire en Dieu. Donc la source même de l'espérance, elle est forcément différente, puisqu'il s'agit de répondre en qui tu crois, en qui tu espères, en quoi tu espères. Et en tout cas, pour le croyant, pour le chrétien, c'est un en qui tu espères, c'est-à-dire c'est cette promesse venue d'un autre, qui fait que l'espérance, elle est fille de cette promesse.
Alors, si nous devions conseiller à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire la totalité des évangiles ou même de la Bible, quel serait le texte de l'évangile ou peut-être de l'Ancien Testament qui serait pour vous fort dans ce sens-là? Qu'est-ce que spontanément vous diriez comme piste de lecture, comme piste de source de lecture?
Vous le savez comme moi, la Bible n'est pas un livre toujours très facile à lire. Il faut parfois y être accompagné. Mais je dirais, le plus simple, ce serait de prendre un texte, c'est de lire les évangiles et d'essayer de repérer les textes de miracles de Jésus. C'est-à-dire, les miracles de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, aujourd'hui, ta vie a changé. Aujourd'hui, tu es arraché à ta souffrance, mais ce que Jésus dit à ce moment-là, ce qu'il accomplit à ce moment-là, est signe d'une réalité qui est encore à venir. Dans l'Ancien Testament, là aussi c'est un texte qui n'est pas forcément facile à lire, je dirais, il faut lire l'histoire du prophète Jérémie à partir de ce verset clé qui se trouve au chapitre 29 et au verset 11, « Je vais vous donner un avenir et une espérance ». Au moment où le prophète écrit ces lignes, le peuple est en exil. Il est déporté à Babylone. Ce qui veut dire que l'espérance n'est pas la méthode Coué spirituelle qui dit « Non, tout va bien aller ». Non, c'est au moment où le peuple est au plus bas, il est loin de son pays, il est opprimé, c'est là que le prophète va dire « De la part de Dieu, je vais vous donner un avenir et une espérance ».
Merci, un grand merci Michel Bertrand d'avoir pris ces quelques minutes pour continuer la lecture de Vibration, le journal de l'Église protestante unie, et puis de l'avoir ouverte aussi cette lecture. Excellente journée à vous.
Excellente journée aussi pour vous. Au revoir.
Au revoir Michel.
Nous avons entendu Madame Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, et Michel Bertrand, professeur et théologien. Au revoir.